Tilt Show, l'émission qui vous évite de péter un câble.
Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans le Tilt Show, une émission 100% poker que j'animerai. Moi je suis Aurore, mais je ne vais pas l'animer seule. Je suis venue avec mes acolytes Tom.
Bonsoir.
Et Boule.
Bonsoir à tous.
Dans le Tilt Show, on a à cœur de vous parler d'événements poker qui ont eu lieu récemment et si possible de façon locale. On va commencer cette première émission avec la finale nationale Red Cactus qui s'est déroulée à Nanterre le week-end dernier, c'est-à-dire le 25 et 26 janvier. Mais Red Cactus, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est ?
Alors Red Cactus, ils ont pour slogan du coup de jouer gratuitement au poker près de chez toi. Ça a été créé par deux jeunes entrepreneurs, Céline Covin et Nicolas Carayon. L'objectif de Red Cactus, c'est de pouvoir proposer aux bars, aux cafés, aux restaurants, tout type de solutions pour les aider à développer leur activité et à retrouver une ambiance conviviale à travers le monde du poker. L'inscription, elle est 100% gratuite. Il suffit juste de créer son compte sur le site internet et de trouver un établissement à côté de chez soi afin de pouvoir profiter et passer un moment convivial autour du poker. Là, donc, tu as dit que tu en as parlé, il y a eu les finales nationales du coup, qui se sont déroulées fin janvier. Et vous avez eu la chance, toi et Tom, de pouvoir y participer. Alors, Aurore, est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment s'est déroulée ta journée et comment ça s'est passé pour toi ?
Alors, déjà, ce que je voudrais dire, c'est pour arriver en finale nationale Red Cactus, tu l'as dit, il faut qu'on puisse aller jouer dans les bars toutes les semaines. Et après, ça se passe un petit peu comme quand on fait du sport, dans n'importe quel sport. Les meilleurs, ils vont aller en finale régionale et les meilleurs de la finale régionale, ils vont pouvoir aller en finale nationale. Donc il y a quand même une sorte de sélection qui s'est faite au fur et à mesure de l'année pour aller à cette finale nationale qui est du coup une seule fois par an et qui se déroule soit fin janvier, soit début février. Et c'était très très sympa d'y être le week-end dernier. Par contre, en ce qui me concerne, la finale nationale, le tournoi en lui-même, c'était une horreur. Je n'ai pris que des horreurs. Mais vraiment, enfin, c'était dur. En fait, je me suis sentie déjà hyper stressée. C'était la première fois que je faisais une finale nationale. D'habitude, j'y vais, j'accompagne gentiment Tom et je fais les petits sides qu'il y a à côté. Mais là, c'était la première fois pour moi de faire le tournoi. Vraiment, j'étais stressée. J'avais l'impression que toutes les mains étaient relancées de ouf. Si je faisais une relance, je me prenais un tribet dans la gueule ou une boîte. Et ça, j'étais désespérée. Franchement, j'étais désespérée.
Une journée, du coup, super compliquée à vivre. Mais bon, au moins, ça a pu te permettre de prendre de l'expérience sur ce type de tournoi où il y a quand même des dotations qui sont très intéressantes à prendre à la fin.
Et oui, la dotation,
on n'en a pas parlé non plus.
On y reviendra, mais c'est vrai que c'est...
Il y a des belles dotations du coup, sur le tournoi. Du coup, c'est vrai que quand il y a un peu d'enjeu comme ça, pour des joueurs qui ne sont pas trop expérimentés, ce n'est pas toujours évident d'aller jouer les premiers tournois comme ça, mais c'est toujours enrichissant au niveau expérience. Comme tournoi à faire.
Absolument. Puis avec Tom, on s'était dit que la structure était quand même assez agressive, mais finalement, on avait quand même, on va dire 2 heures pour vraiment jouer au poker. Bon, ben moi, les 2 heures, je les ai vues passer, puis je suis partie. Quoi. Je suis partie avant que ça devienne vraiment agressif, en fait. Donc là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Bon, c'est tout, c'est le jeu, ça arrive. C'était ma première expérience et c'était. Et néanmoins, l'ambiance était très chouette. Donc même à table, on a quand même bien rigolé avec les joueurs. C'était très bon enfant et voilà, ça fait plaisir aussi de jouer dans cette ambiance-là décontractée.
Ouais, c'est bien toujours d'avoir un moment convivial et de garder ça à l'esprit aussi. On est là pour ça, pour passer un moment de convivialité. Et après, bon, bah,
c'est... Plus si affinité.
Plus
quoi.
Si affinité, tout à fait. Et puis, du coup, bah, y avait Tom aussi, du coup, qui a pu participer à cette finale.
Et oui.
Pour toi, je crois savoir que ça s'est un petit peu mieux passé sur ta journée.
Un petit peu, oui. Déjà, je suis ambassadeur pour Red Cactus. Donc, je gère une table à Delarté.
Compiègne.
En fait,
Delarté à Compiègne.
Oui. Donc, le rôle d'ambassadeur, c'est de recevoir les joueurs, de mettre les jetons, de faire les stacks, d'expliquer quelques règles aussi. Parce que souvent, il y a des joueurs amateurs aussi qui viennent, ou novices. Donc, voilà. Et pour revenir à la finale nationale, j'avais pour objectif de monter 1 million de jetons. Au jour 2, chose que j'ai pas fait.
Du coup, t'as pas réussi à accrocher le jour 2.
Et non, je finis 90e sur 400. D'accord. Je suis monté à 700 000 quand même.
T'es
j'ai
quand
failli.
Même arrivé, du coup, quand même proche
du jour 2. Je perds à 1h du jour 2.
Ouais, c'est dommage.
Il me restait 300 000 à monter pour mon million. Mais j'ai pas réussi, voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Les aléas du poker. J'ai un coup à jouer. J'ai les dames en main. Relancé à tapis contre As-Roi, je paye. Et bah, il touche son As-River, malheureusement.
Des choses qui arrivent.
Et oui. Rencontre.
Et voilà, c'est voilà, le beau c'est sport du... Et après, bah, je fais double paire flopé en défendant une blinde. Et le monsieur, il fait double paire Roi 8 en river. Qui me fait bah, perdre mon tournoi quasiment. Juste avant le dinner break. Donc bah, après, voilà.
Et quand t'es revenu du dinner break, t'avais presque le leverage en vrai.
Un peu moins, oui, mais ouais. Après j'ai paire de neuf. La structure était telle que on pouvait plus relancer ou quoi que ce soit. Donc j'ai ouvert et j'ai fait boîte et j'étais payé par les rois. Donc
au revoir.
Tant pis. Ouais, à une prochaine.
Un coup du coup qui...
Coup de poker, malheureusement. C'est pour ça qu'on aime ce sport.
Voilà. Après, au niveau de l'ambiance, t'en as pensé quoi?
C'est génial. C'est un free-roll, en fait. Donc, il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas le truc de l'argent qui rentre en compte. Même si la dotation est très belle, c'est gratuit, en fait.
Et donc, on est tous arrivés là gratuitement. On a tous joué dans les bars gratuitement.
Il y a l'ambiance. Du coup, un plus légère que quand il y a des gros enjeux financiers.
C'est ça, il n'y a aucun enjeu financier, donc les gens sont... Ça dépend. Moi, le matin, j'avais une table assez sérieuse qui ne parlait pas trop. J'ai changé de table et je suis tombé dans une table où on rigolait vraiment. Donc, c'était sympathique.
C'est aussi pour ça qu'on aime le poker, c'est pour passer des journées comme ça où on peut rigoler autour de notre passion.
Ouais, moi, après, quand j'ai bust du coup du main event, je suis allée dans le side event, parce que j'étais encore dans les temps, hein, forcément. Et je suis tombée sur une table très, très sympa avec qui j'ai passé le reste de la journée à jouer sur le side. Et c'était très cool. Enfin, ça fait plaisir. Même si j'ai été carte d'aide toute la journée, j'ai passé un bon moment.
Ah, c'est bien, c'est ce qu'il faut retenir de toute façon sur des journées comme ça. Après, il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin de la journée. Et donc et l'essentiel avant tout, ça reste de passer un bon
c'est
moment.
C'est ça, et surtout que c'est gratuit, on ne met pas d'argent en jeu.
C'est ça.
D'ailleurs, on a interviewé d'autres joueurs, parce que nous on était sur place, mais on en a profité pour interviewer d'autres joueurs. On va les écouter de ce pas, donc faites comme si on était le jour J. Hein.
Barbe bleue, c'est à la fois ton surnom et en même temps, clairement, voilà, ta barbe est peinte en bleu. Tu as fait le main event, du coup, le D1. Dis-nous comment ça s'est passé pour toi.
Écoute, ça s'est plutôt bien passé en yo-yo. Je suis toujours un joueur assez agressif, donc j'ai monté les jetons très vite. Et puis je suis redescendu, puis je suis remonté, etc. En essayant toujours de faire rire à la table, c'est le plus important. Hein, quand tu arrives avec une barbe bleue, il faut tenir le truc. Et puis ça s'est fini bon, sur un full, mais avant, j'ai fait un coup absolument magique. J'étais chip leader à la table, j'avais 470 000 jetons après le dîner. Et donc je payais les tapis quoi. Et je paye un tapis après flop, j'ai une paire de valets en main et un valet sur le board. Et je paye un tapis à la paire d'as et je jette mes cartes en disant ouais, vous prenez le valet, désolé. Et en fait, non, j'avais qu'une paire de valets parce que j'avais valet 3. J'étais tellement fatigué, j'avais pas vu que j'avais qu'un seul valet. Comme un débile, j'étais percé d'avoir un brelan. Et donc, du coup, je me suis mis à chercher la carte qui me manquait alors que pas du tout, c'était bien un 3.
Oh la loose, je suis désolée d'entendre ça. C'est vrai que la fatigue, c'est vraiment un sujet quand on joue comme ça pendant plusieurs heures d'affilée. Et là, ça t'a fait un mauvais coup quoi.
Mais c'est un truc à gérer en fait. Donc ce matin pour le Mounty, je me suis étiré, j'ai fait un peu de yoga.
Et là, t'es en forme du coup pour attaquer le nouveau tournoi de la journée.
Je suis hyper en forme pour le nouveau tournoi de la journée et vraiment résolu. Puis, tant qu'on s'amuse, hein, ça reste du poker.
Super, merci beaucoup Barbe Bleue. Et bien pour le Tilt Show, nous avons Thium qui est avec nous. Thium, tu étais vainqueur de la finale nationale 2021 Red Cactus et tu as fait D2 aujourd'hui et tu viens de bust. Dis-nous tout.
Bonjour, je viens de bust 21, je ne ferai pas le doublé, un peu déçu, mais c'est quand même une belle performance sur la finale nationale, la plus grosse de l'histoire de Red Cactus. Et j'ai perdu paire de 8 contre paire de dames. Voilà. Classique, y a pas de... j'ai pas fait d'erreur, j'ai pas eu de main, je pouvais pas faire mieux je pense aujourd'hui.
21 du coup ça veut dire que t'étais quand même dans les ITM ou pas du tout?
Oui mais j'ai pas du tout regardé le payout je retournerai à Vegas cette année puisque j'ai 50 ans et donc je vais m'offrir le tournoi des seniors tournoi réservé aux 50 ans et plus à Las Vegas, donc je vais de toute façon y aller, mais avec mes propres deniers. Voilà, ça va être magnifique et c'est un peu avant le Maine, donc j'irai a priori les deux dernières semaines de juin.
Donc une aventure en marge de Red Cactus, mais c'est aussi Red Cactus qui t'a lancé, qui t'a donné envie d'y revenir, j'imagine.
Alors, en fait, je jouais pas au poker avant Red Cactus. J'avais joué une fois dans ma vie avant de voir un bar avec écrit poker gratuit sans argent tous les mercredis. Et donc j'y suis allé, je savais pas jouer. Donc Vegas, j'avais envie, non, pas spécialement en fait, avant de connaître Red Cactus.
Non mais c'est fou quand même de se dire tu savais pas jouer au poker avant Red Cactus et d'un coup t'as été, enfin d'un coup, j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus, mais t'as quand même été vainqueur de la finale nationale, donc comme quoi aller dans les bars toutes les semaines, jouer régulièrement, ça paye entre guillemets.
Ouais, exactement, la première fois que j'y suis allé ils m'ont écrit sur un bout de papier qui gagnait entre la suite, la couleur, le full, je savais pas, et ils m'ont écrit les mains sur un bout de papier la première fois que j'ai joué avec Red Cactus.
Un vrai amateur, un vrai débutant, c'est une belle histoire, une belle success story, ça encore. Moi, ça me plaît, les success stories. Merci beaucoup, Thiem.
Au revoir, et puis longue vie au podcast, hein, pourvu que ça cartonne.
Gigi la Méduse, tu es la dernière fille en lice de cette finale nationale Red Cactus. Vous n'êtes plus que 10 sur les 400 joueurs qu'il y avait au départ samedi matin. Il semblerait que tu sois chip leader du tournoi. Félicitations déjà d'en être arrivé jusque-là. Je suis très contente de pouvoir t'avoir au micro du Tilt Show. Dis-nous tout, comment ça s'est passé tes deux jours depuis là? En plus, tu viens de loin, tu viens de Narbonne, donc tu défends vraiment ta place, t'as la rage. Dis-nous tout.
Alors, c'est vrai que j'ai été short stack pendant un long moment, en début de tournoi. Je me suis accrochée comme une lionne et j'ai eu la chance de doubler et puis après de continuer à jouer un peu serré. Et j'ai eu de la chance sur les tirages, donc... Et maintenant, voilà, je suis chip, donc je suis super contente, surtout à 10 joueurs de la fin, donc c'est super.
Et oui, la chance, c'est un facteur non négligeable quand on est en tournoi, surtout sur des structures qui vont quand même assez vite et qui sont assez agressives, puisqu'on a eu des entêtes dès le début sur ce tournoi. Là, tu vas reprendre après le lunch break à 60 000, 120 000, hanté 120 000. Ton stack, on a dit, c'était 3,6 millions pour un average à 2 millions. Donc oui, t'es quand même bien, mais comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas prendre de mauvais coups. Ça va être quoi ta stratégie du coup pour la suite?
Alors, rester prudente surtout par rapport au gros tapis qu'il y aurait à la table. Et puis plutôt jouer contre les short stacks. Voilà. Après, c'est possible que je couche des grosses paires aussi, ça m'arrive... c'est grâce à ça aussi que je pense que j'en suis arrivée là. J'ai couché des paires quand il y avait plusieurs personnes qui étaient à tapis. Et ça m'a sauvée parce que finalement, à l'abattage, j'aurais perdu. Donc voilà, je garde cette ligne.
Donc prudence, prudence. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvais fold, il n'y a que des mauvais calls. Donc il vaut mieux folder et puis rester prudente. Des fois, il faut prendre des risques. Mais pour ça, il faut avoir bien en tête aussi ce que vont faire les autres joueurs, ce qu'ils potentiellement ils pourraient avoir en main. Donc je pense que ta stratégie, elle est très bien. Écoute, je te souhaite vraiment bonne chance pour la suite parce que ça serait une première pour Red Cactus aussi d'avoir une finaliste et une joueuse qui partirait à Vegas. Ça serait vraiment chouette. Est-ce que c'était ton rêve déjà de base d'aller à Vegas en tant que joueuse de poker?
Tout à fait. Ça fait des années qu'on rêve d'y aller. Malheureusement, c'est vrai que le budget est quand même très élevé entre le voyage, les repas, l'hôtel... Et en plus, le prix du tournoi. Donc là, s'il y a un petit package, je serai vraiment très, très contente.
Bah écoute, je te le souhaite. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que sur le break, c'est un petit peu rapide. Vous n'êtes plus que 10 sur les 400 joueurs. Non, c'est vraiment beau. Écoute, merci beaucoup, Gigi. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et puis, voilà, girl power.
Yes.
Malheureusement, le girl power n'aura pas suffi à Gigi pour... Pour aller au bout, puisque pour avoir suivi un petit peu l'aventure le dimanche, même en étant rentrée à la maison, puisque on le verra après, mais Red Cactus a fait du stream tout le week-end. Gigi a terminé 8e une fois qu'elle était en table finale. Elle est quand même partie avec un ticket live pour un tournoi à 400 euros, donc c'est un beau prix.
C'est plutôt sympa.
Ça fait déjà une belle dotation. Pour ce qui est de Thiem, qui était donc le vainqueur 2022. Lui, quand il est allé à Vegas, il m'a dit qu'il avait fini 2000e sur les presque 10 000 joueurs qui s'inscrivent au main event. Donc, je rappelle qu'il y a 10 000 dollars à Vegas. Main event des WSOP, championnat du monde de poker. Sachant que 2000e, sachant qu'il y avait 1400 payés. Donc, en vrai, il n'était quand même pas si loin que ça des ITM. C'était une belle perf. Thuam, lui, disait qu'il avait fini 21e là, sur la finale nationale. En vérifiant, il a été un petit peu mieux que ça. Il était 19e. Voilà. Et il est parti avec un ticket à 20€ pour PokerStar. Donc, c'est pas le prix qu'on rêve quand on fait la finale, dont on rêve quand on fait la finale nationale, mais c'est toujours ça de prix. Hein.
Mais moi, je pense que déjà, enfin, faut pas oublier que ça reste un tournoi free roll. On ne met pas d'argent pour s'inscrire, donc il y a quand même des gros packages qui sont offerts pour les vainqueurs du tournoi. Après, juste le fait de recevoir une récompense, je trouve que c'est déjà sympa et c'est l'essentiel de la chose.
Ah oui, et vous l'aurez sûrement compris, le vainqueur de la finale nationale part à Las Vegas. Toi, Thuam, tu étais avec Barbe Bleue, tu l'as eu ?
Sur la table, oui. Un sacré joueur. On a vraiment bien rigolé. J'ai passé au moins 3 heures avec lui, je pense, sur la même table à côté.
C'est pas mal.
Ouais, il avait, c'est grâce à lui que je suis monté en jeton, en fait.
Ah, c'était ta banque ?
Oui, un peu. Il m'a donné, ouais, on a gagné le jeu là-bas. En fait, on était les deux gros stacks de la table, donc on jouait souvent. Et ouais, j'y ai pris un peu de jetons, ouais. Mais un phénomène.
Et tu me disais qu'il avait un petit tic.
C'est ça. Dès qu'il envoyait all-in, il sortait de sa poche un petit triangle comme au poker on a, et marquait all-in dessus, et il le posait sur ses jetons.
Voilà, le petit truc que certains joueurs ont.
Quoi. C'est ça.
Le petit truc en plus qui les distingue des autres.
Et on voudrait féliciter aussi Rémi pour sa victoire. Donc, oui. Il part à Vegas.
Voilà, un beau ticket, du coup, un beau package à 14 000 € à peu près.
Ouais, hein,
c'est ça.
L'inscription, du coup, au tournoi, 10 000 €, plus le
dollar.
Voyage et l'hôtel.
Dollar.
Excusez-moi. Ouais.
Le voyage, une enveloppe sur place pour manger.
Les repas, ouais. Et l'hôtel.
Tout frais payé.
C'est beau.
Au frais de la
c'est
princesse.
Beau.
Magnifique.
Bravo, Rémi.
Bravo à toi, Rémi.
On a eu aussi la chance, du coup, au micro du Tilt Show, d'avoir Céline Covin, donc la cofondatrice de Red Cactus, et un des membres de son staff. On va écouter ça tout de suite.
Je suis avec Céline Covin, cofondatrice de la Ligue. Céline, dis-nous comment on en arrive à organiser un événement de cette ampleur.
Alors, bonjour à tous, bonjour Aurore, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Il faut aimer le goût du challenge, il faut être persévérant, résilient, je crois. Mais voilà, donc ça, c'est des qualités qui sont nécessaires pour organiser des événements comme ça. C'est toujours extrêmement difficile jusque le lancement, vraiment, l'ouverture des portes. Et dès que vous voyez le sourire et les étoiles dans les yeux des gens en face de vous, il y a absolument toute la pression qui retombe et c'est comme ça, en fait, c'est l'adrénaline et c'est vraiment le moteur parce que, en fait, l'ADN de Red Cactus, c'est vraiment de procurer du bonheur aux gens au-delà d'organiser des tournois de poker. Moi, mon travail, c'est de rendre les gens heureux, en fait.
J'ai l'impression qu'aussi l'organisation s'améliore d'année en année. Vous faites de plus en plus attention aussi aux retours que vous avez et du coup, les joueurs sont, a priori, très contents.
Alors, oui, effectivement, j'y mets un point d'honneur, c'est-à-dire que c'est pas du blabla, en fait, quand on demande des retours, des feedbacks, on a mis en place des briefings plusieurs mois avant, un mois avant, on a des briefings chaque matin, chaque soir avec le staff, on va refaire un débrief post-événement, et puis surtout, les joueurs ont maintenant un site web sur lequel il y a absolument toutes les informations, et il y a une rubrique suggestion, amélioration, et vraiment, c'est pas du blabla, je consulte absolument tous les avis et tous les retours, parce que encore une fois, c'est toujours le même adage. Seul, tu peux aller plus vite, mais à plusieurs, tu iras plus loin.
Et on sait que la Ligue, elle est aussi beaucoup fondée sur la communauté, puisque vous avez votre staff, qui n'est pas si énorme que ça pour tout ce que vous organisez, d'ailleurs, et tout le soutien des ambassadeurs. Et puis derrière, les joueurs, évidemment, qui sont là, qui participent à vos événements. Dis-nous un petit mot sur comment vous êtes organisé.
Oui, effectivement. Alors déjà, on a commencé que Nicolas et moi. Et puis, heureusement, en 15 ans, la team s'est agrandie. Désormais, nous sommes 10 salariés dans la team Red Cactus au quotidien. Effectivement, on fonctionne beaucoup avec les ambassadeurs qui sont finalement 200 maintenant partout en France sur le territoire national et qui sont chaque semaine dans les bars et qui nous font des retours sur le terrain. On essaye aussi, et c'est ça je pense qui fait le succès de notre ligue, d'être constamment dans la recherche de performance, d'amélioration, mais aussi de nouveautés.
En tant que joueuse, vous aviez envoyé tout un questionnaire. Donc moi, mon plat préféré, c'est le couscous. Quel était l'intérêt de cette question ?
Ah bah non, mais moi, je vais te dire l'intérêt de cette question. En fait, cette question, c'est ce qu'on appelle les fun facts. En anglais, les petites histoires, les petits indices fun, drôles, qu'on connaît sur les joueurs. Nous, ça nous donne du contenu. Notamment, il y a mon collègue Éluane qui est à la régie et qui stream pendant aux commentaires et à la régie et qui stream toute cette finale nationale. Et en fait, ça lui permet d'avoir du contenu sur chaque joueur et de donner des informations, qu'elles soient extrêmement sérieuses ou un peu décalées, comme l'histoire du couscous.
Super. Et du coup, j'avais une deuxième question. Quelles sont les nouveautés de cette finale nationale ?
Alors, en fait, cette année, on a surtout des nouveautés organisationnelles de notre côté. C'est-à-dire que nous avons 750 joueurs dans cette salle. Sauf que pour accueillir 750 personnes avec la quantité de staff que nous sommes, il faut forcément améliorer certaines choses et fluidifier la circulation des joueurs. Alors, ça reste très événementiel-like. Mais en fait, c'est très important parce que avoir 750 personnes qui arrivent exactement au même horaire et sur le même créneau, c'est pas du tout un bon choix stratégique. Donc par exemple, on a décidé de faire un peu comme quand vous montez dans l'avion, vous avez le groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. On a fait un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y avait des arrivées à 9h, 9h15, 9h30, 9h45, 10h, 10h15 pour que tous les joueurs n'arrivent pas en même temps. Surtout, on a ouvert les inscriptions le vendredi soir et ça c'était génial parce que ça nous permet avec Nicolas, mon associé qui est aussi le fondateur de Red Cactus, de passer aussi un petit moment qualitatif avec les joueurs avant le grand lancement de cette finale. Et je pense que c'est confort aussi pour les joueurs parce qu'ils ont aussi envie de voir la salle, de se rendre compte du lendemain, de prendre quelques repères. Je pense que ça les rassure un petit peu. Et puis ça évite les mouvements de foule parce que nous avons quand même fait 200 inscriptions ce vendredi soir sur les 700. Donc c'est vraiment très bien, c'était un bon choix. On a, je pense, beaucoup mieux communiqué en amont sur l'événement, sur les réseaux sociaux, les infos pratiques qu'on a pu transmettre aux joueurs, notamment avec la mise en place d'un dossard poker qui vous permet d'arriver et de présenter votre dossard directement aux inscriptions afin de fluidifier au maximum l'arrivée des joueurs. Ça, c'était top. Il y a le stream live. On a streamé depuis hier matin non-stop. On est super content parce qu'on s'est mis vraiment un défi tant technique qu'en termes de contenu avec Elman et je suis ravie que ça plaise autant aux joueurs.
Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, ça plaît. D'ailleurs, Eluane va nous dire quelques mots aussi. Et donc, on a une dernière nouveauté, vraiment un truc de ouf.
Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. En fait, on a décidé avec Nicolas d'augmenter la dotation et on emmène donc le troisième de ce main event de la finale nationale aussi à Las Vegas pour participer au championnat du monde de poker. Jouer un side event.
C'est beau. Trois joueurs du main event qui partent à Vegas. Vous avez aussi emmené encore trois ambassadeurs cette année comme l'année dernière. Ça, c'est très généreux de votre part aussi. Plus, du coup, il y aura un membre du staff, Nico et toi. Donc, ça fait déjà une belle équipe Red Cactus.
Exactement. Et puis, si je suis très transparente, on a un rêve avec Nicolas, c'est de pouvoir envoyer toute la table finale à Las Vegas avec nous.
Merci pour tout ce que vous faites parce que c'est vraiment très chouette. Il y a une bonne ambiance, tout le monde a le sourire, les joueurs sont sympas.
Bah, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a reçu énormément de compliments, tant sur l'organisation que sur la dotation, que sur l'ambiance générale et l'accueil du staff. Donc vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir. Si vous aimez le poker, que vous voulez jouer chaque semaine, je suis sûre, mes amis, qu'il y a un bar partenaire pas très loin de chez vous. Alors il suffit d'aller sur le site de Red Cactus, redcactuspoker.fr, de taper votre code postal et là vous allez voir apparaître le bar le plus proche pour aller jouer chaque semaine gratuitement. Venez, rejoignez-nous, la communauté est grande et on a besoin de vous.
Éluane, du coup, tu es membre du staff Red Cactus. Toi, tu es dédié au stream là pendant 2 jours.
C'est la première fois qu'on va streamer l'ensemble de la finale nationale. Cette année, on a décidé de vraiment mettre le paquet sur le stream. C'est un premier pas dans le stream continu pour nous.
C'est très cool en tout cas. Et puis, puis on voit bien, enfin, vous avez mis deux caméras différentes, donc on voit le board, on voit un petit peu les joueurs et tout ça. Donc voilà, c'est rediffusé sur quelle plateforme ?
Ouais, on est sur toutes les plateformes, on est sur YouTube, Twitch et Facebook Live. Mais ouais, comme tu disais, on essaie de mettre un maximum de caméras. Bon, malheureusement, on n'a pas encore les cartes up comme le font Poker Stars, Winamax, etc. sur les gros tournois. Mais bon, peut-être à l'avenir, pourquoi pas.
La finale nationale, c'est déjà un bel événement, mais c'est pas le PT non plus, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est le plus grand événement amateur, donc il n'y a pas que des professionnels, et nous on essaye d'être le plus professionnel dans ce milieu-là, donc voilà.
Oui, Benny et Yu l'ont rappelé hier à l'ouverture, c'est le plus gros tournoi free-roll de France. Comment ça se passe pour toi?
J'essaie un maximum d'animer le stream, j'essaie de pas dire trop de conneries, mais bon, parfois ça sort un peu. Et voilà, on essaye de donner aux joueurs qui sont pas là, qui n'ont pas pu venir, le maximum d'images, le maximum d'infos sur leurs potes qui peuvent être dans le tournoi. Donc voilà, je m'occupe du stream, j'essaie de faire au mieux et j'espère que ça plaît aux gens.
Et ça plaisait aux gens parce qu'il y avait quand même beaucoup de viewers, je ne sais pas comment on dit.
Oui, sûrement.
Ouais. Si tu veux, oui, ça passe.
Et bravo à Céline et Nico pour l'organisation quand même.
Ouais, c'était super, c'était un très bel événement. Le dimanche, on a pu revenir avec Tom jouer un Mystery Bounty. Barbe Bleue en parlait dans son interview. C'était très cool, c'était très trash la structure, mais c'était très sympa. Toujours pareil, bonne ambiance aux tables, etc. Donc,
les gens viennent des quatre coins de la France, donc ils ne veulent pas rentrer trop tard non plus le dimanche soir.
Et c'est en même temps, ils sont venus là pour jouer au poker, donc c'est chouette de proposer des choses tout le week-end, quoi. La dotation, Céline en parlait, donc trois personnes qui allaient à Vegas cette année contre deux les années précédentes. Il faut savoir que Red Cactus, c'est 80 000 euros de dotation annuelle, dont la moitié, 40 000, pour juste le week-end de finale nationale.
Ce qui est quand même assez énorme pour un free-roll, quoi. C'est une dotation qui est juste grandiose.
Carrément, carrément. Ils ont eu la chance, dès le début du lancement de Red Cactus, d'être partenaires avec PokerStars. Ça leur a fait beaucoup de bien aussi pour les dotations et pour la promotion de leurs événements en live toutes les semaines. Mais aujourd'hui, on arrive à des dotations qui sont faramineuses pour quelque chose qui nous coûte zéro, quoi.
Et si vous aussi, vous souhaitez pouvoir participer du coup à cet événement, bah, vous avez juste à vous inscrire du coup sur le site internet et à rejoindre un bar près de chez vous. Si vous habitez proche de Compiègne, vous pouvez aller à Del Arte le jeudi, aux Trois Brasseurs le mardi ou au Red Beer rue Saint-Corneille le mercredi.
Alors les Trois Brasseurs,
ça finit.
Ouais, je crois
les
que c'est
trois
fini.
Trois Brasseurs sont ratés.
Ouais, ils sont encore dans en ligne mais ils sont finis. Et on dit le Red Bear.
Le Red Bear.
C'est un
pardon.
Ours. Excusez-moi. On y boit de la bière mais c'est un ours.
Le Red Bear. Si vous êtes plus dans la région de Beauvais, vous pouvez aller jouer à Del Arte à Beauvais. Et si vous êtes du côté de Crépy-en-Valois, vous avez le Beer's Corner rue Henri Laroche ou Oppidum à Bonneuil-en-Valois qui joue le jeudi.
Ouais, et Crépy, c'est le dimanche soir et ça a ouvert ce jour. Ça a ouvert aujourd'hui.
C'est ça, c'était le premier tournoi aujourd'hui.
Ça ouvre à 18h aujourd'hui, ouais. Donc c'est un beau tournoi. Et il nous reste une dernière interview, last but not least, comme on dit, je ne vous en dis pas plus, tout sera dit tout de suite. On a du beau monde avec nous au micro du Tilt Show aujourd'hui, puisque je suis avec Eric Nakache, qui est directeur de tournoi. Eric, dis-moi tout de ton métier, depuis quand tu fais ça, et en quoi ça consiste exactement d'être directeur de tournoi?
Alors, ça fait 17 ans que je fais ce métier. Un ami m'a demandé un jour de lui organiser, comme on joue au poker ensemble entre amis, d'organiser un petit tournoi pour les pages jaunes à l'époque, qui devait partir en savane avec une animation très, très légère, sans bruit. Donc c'était l'essor du poker en fait, avec Patrick Bruel à l'époque à la télévision. Et donc je l'aurais organisé, mais je jouais comme ça, mais voilà, c'était vraiment... c'est arrivé comme ça. Donc je leur ai préparé les jetons, j'ai préparé les règles de jeu. Ils sont partis avec tout ce matériel en Afrique. Quand ils sont revenus, ils étaient enchantés. Ils m'ont recommandé une deuxième fois. Et là, je me suis dit, il y a un truc avec le poker. Et donc, effectivement, je me suis lancé dans cette activité en parallèle de mon activité de publicité. Voilà, donc en fait, j'ai deux activités.
Parce que tu fais toujours les deux aujourd'hui.
Et je fais toujours les deux, effectivement, aujourd'hui.
Alors, pour avoir discuté avec quelques croupiers, il semblerait qu'ils sont prêts à se battre pour travailler avec toi. Comment tu expliques ça?
Alors, il y a de très bons prestataires, donc je ne vais pas tirer toute la couverture à moi, mais il y a une particularité, c'est que d'une part, je suis très cool avec eux et je n'impose rien. Voilà. Et puis surtout, le lendemain de l'événement, je les paye.
Donc une bonne ambiance et une paye rapide, ce sont les secrets du succès quand on est freelance organisateur de tournois. Comment ça se passe avec Red Cactus? Parce que du coup, moi, ça fait 3 ans que je viens au final national, ça fait 3 ans que je te vois organiser et gérer le floor sur cet événement. Comment ça s'est organisé ce partenariat et avec quel autre nom du poker tu travailles aussi?
Alors, avec Red Cactus, en fait, ça fait 5-6 ans. Donc ils m'ont demandé effectivement un jour si ça m'intéressait. Et au fur et à mesure que le temps passe, le field augmente. Et ça, c'est génial. Je suis très content pour eux parce que c'est des gens vraiment très, très sympas et donc dignes de confiance. Et ça, c'est très important dans le métier. Je suis heureux que ça fonctionne bien et que ça prenne de l'essor. Alors, en fait, au niveau de l'organisation, on a différentes étapes. On a l'étape pré-tournoi où il faut faire, d'abord il faut trouver les croupiers parce qu'on avait quand même 50 croupiers pendant ce week-end. Alors il se trouve que l'arrêt des clubs sur Paris a fait que beaucoup de monde était disponible. Donc ça a été plus facile. Donc on doit préparer les contrats de travail. Demain je ferai les fiches de paye, les règlements. Donc voilà, donc c'est 50 à chaque fois, fois 3 étapes. Voir également effectivement au niveau de la structure du tournoi avec Nicolas, qui est responsable de Rectactus, quelle structure on met en place, combien de jetons, etc. Donc tout ça, c'est en amont. Et puis, lorsqu'on est sur place, on arbitre et puis surtout, on gère les 50 personnes qui sont là, qui travaillent pour nous.
Donc chacun sait ce qu'il a à faire à son domaine de compétences et son périmètre à gérer.
Sinon, au niveau des autres sociétés pour lesquelles je travaille, c'est principalement Winamax. Et également la Française des Jeux qui organise régulièrement des tournois également pour leur VIP. Donc, comme Poker Stars est sponsor de Rectactus, je travaille en gros pour 3 rooms différentes, Poker Stars, Winamax et la Française des Jeux.
Est-ce que tu vas être sur les prochains Winamax Poker Tour là, dans les jours, semaines à venir?
Alors, prochaine étape, et je crois que c'est la dernière, c'est à Strasbourg et effectivement je serai... à Strasbourg la semaine prochaine.
Donc si vous voulez profiter d'un bel événement avec un TD accueillant, juste, qui a une très bonne équipe, voilà, il faut aller faire le Winamax Poker Tour de Strasbourg. Et vous avez souvent des joueurs qui se prennent la tête, qui sont pas contents, qui partent, qui tiltent à gérer, ou en vrai ça va?
C'est très très rare. En fait, on est sur du free roll, c'est-à-dire que il n'y a pas d'argent en jeu et on n'est pas en casino, donc il n'y a pas de pression d'argent. Ce qui fait que les gens sont plutôt bon enfant et on est là pour faire de la pédagogie. Il n'y a que la pression d'aller jusqu'au bout. Hein, mais sinon, tout se passe super bien et il n'y a pas de problème. On fait partie de Red Cactus au moment où on travaille pour Red Cactus. Si tout le staff comprend ça dès le départ, il ne peut y avoir qu'une bonne ambiance.
Donc tu t'adaptes aussi à chaque marque que tu vas représenter sur chaque événement. Donc quand tu seras à Strasbourg, l'important c'est de gagner, quoi.
Voilà, exactement.
À bientôt Eric, merci beaucoup. Et oui, le Winamax Poker Tour qui est ce week-end et qui du coup est en train de se terminer là. Un autre free roll du coup intéressant. Il faut juste aller à Strasbourg, quoi.
C'est ça, il faut faire un petit peu de route.
Il faut se qualifier sur le site Winamax aussi.
Du coup, il vous reste. Vous ne pourrez pas aller à Strasbourg. Il faut regarder les étapes qui restent disponibles actuellement pour aller jouer le Winamax Poker Tour. Il doit en rester quelques-unes à vérifier sur leur site directement. Et on voudrait aussi rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Oui.
Que si vous êtes directement ou indirectement impacté par un problème de jeu excessif, vous pouvez vous rendre sur le site www.joueur-info-service.fr. Ils sont disponibles de 8h à 2h du matin, 7 jours sur 7. C'est un chat qui est anonyme avec des professionnels formés aux difficultés rencontrées avec la pratique du jeu excessif et des orientations adaptées à votre situation.
C'est intéressant, hein, parce que du coup...
Pas de compte à l'envers, comme dirait notre ami Benignou.
Exactement. Et jusqu'à 2h du matin, les pauvres.
De 8h à 2h du matin.
Non, mais c'est bien, parce que nous, on parle beaucoup des free rolls, etc. On va parler beaucoup sur nos émissions du Tilt Show, des émissions des événements qui se passent en poker local, associatif. Mais on sait que...
Il faut aussi rappeler que les jeux d'argent peuvent être source d'addiction et que du coup, il y a des gens qui sont là pour vous aider si vous êtes dans ce cas-là.
Il ne faut pas oublier. Eh bien, merci beaucoup. On va passer à la prochaine étape de notre émission. Je vous laisse découvrir.
Les clés du poker.
Et du coup, pour cette toute nouvelle rubrique, les clés du poker, on va vous expliquer pour cette rubrique, du coup, comment se déroule une partie de poker.
On va commencer par les bases.
Les bases, tout à fait. Juste savoir comment se passe une partie. Du coup, la partie, ça se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur commence la partie de poker avec une somme appelée tapis. Le donneur de la table est signalé par un bouton, souvent marqué D ou dealer dessus. À chaque partie de poker, le bouton circule de joueur en joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. Les deux joueurs assis à la gauche du donneur postent chacun une mise d'office appelée blinde. La petite blinde en général et la grosse blinde. La petite blinde pour le joueur qui est situé juste à gauche et la grosse blinde pour le joueur ensuite. Les joueurs prennent ensuite la parole. Quand c'est à votre tour de parler, vous pouvez soit annoncer un check, qu'il s'agit en fait de ne pas miser, mais de rester dans le jeu, on garde ses cartes.
C'est ce que je préfère faire, moi. Je check comme ça, mais je continue de jouer, je paye pas.
Par contre, pré-flop, on peut pas checker, monsieur Boule. On vous rappelle les règles quand même. Il faut quand même miser la première fois.
Nous ne pouvons pas checker possible tant qu'un autre joueur n'a pas encore ouvert ou misé. Parce que comme il y a des mises obligatoires pré-flop, ça veut dire qu'il y a déjà eu une ouverture. Donc nous ne pouvons pas checker.
Pas checker le pré-flop.
Donc nous pouvons aussi donc miser ou ouvrir si vous êtes le premier à miser. Vous pouvez suivre, où on dit coller. C'est miser le même montant que le joueur ayant ouvert pour se maintenir dans la partie, du coup. On peut relancer, to raise. C'est renchérir sur la mise en cours.
Minimum le double.
Minimum
pour les
mises
françaises.
Pour les mises françaises, parce qu'aux États-Unis c'est autrement.
Il y a une petite particularité. On va rester dans le classique.
On va rester français.
On peut sur-relancer, c'est-à-dire relancer un joueur qui a déjà relancé.
Toujours plus.
Toujours plus. Ou on peut passer fold, abandonner la partie et donc les mises que l'on aura déjà investies potentiellement dans le pot si on a déjà misé quelque chose.
On les perd du coup.
On les perd si on a misé quelque chose. Si on passe, on perd la mise qu'on a investie. Chacun des tours de parole prend fin quand tous les joueurs restant en lice ont misé le même montant. Si aucun des autres joueurs ne suit ou ne relance votre mise, vous remportez le pot, la totalité des mises. Vous pouvez alors montrer ou non votre carte aux autres joueurs, à votre guise. Sinon, une fois que tous les joueurs encore en jeu ont complété la mise à hauteur de la valeur la plus haute, le croupier peut brûler une carte et retourner les trois premières cartes au centre de la table, face visible. C'est ce qu'on appellera le flop.
Ne montrez jamais vos cartes, on vous donne des indices sinon.
Donc, une fois que le flop retourné, on s'ensuit un nouveau tour de mise.
Et là, on peut checker.
Et là, on peut checker.
Ah, on met pas d'argent.
Là, on y est.
Pas de jeton en jeu.
Une fois la mise la plus haute complétée, le croupier brûle à nouveau une carte et retourne une seule carte au milieu. C'est ce qu'on appellera la turn.
Mais c'est quoi un croupier ?
Non, j'allais dire brûler, ça va, c'est juste mettre une carte de côté, en fait.
Brûler, c'est juste, en effet, on met la première carte du paquet, on la met de côté,
personne ne la verra
face
jamais.
Face cachée, personne ne la verra jamais, celle-là, elle ne sert à rien dans le jeu.
Et on a donc la turn.
Et du coup, on a la turn. Et du coup, une fois la turn tombée, s'ensuit, encore une fois, un nouveau tour d'enchères.
Mais on peut checker.
Et on peut toujours checker. C'est ça qui est toujours sympa. Mais on peut aussi miser. Chacun fait comme il le veut. Et du coup, une fois toutes les enchères complétées, toujours au même niveau, bien sûr, au niveau de l'enchère la plus haute, le croupier brûlera une dernière carte et retournera la dernière carte de la partie qu'on appellera la river. Et la river, la carte que beaucoup de joueurs redoutent.
Celle qui fait mal,
magique ou pas du tout magique. Du coup, suite à ça, du coup, si un ou plusieurs joueurs sont encore en jeu à la fin du dernier tour d'enchère, donc là, on a encore un tour d'enchère, hein, donc après la river. Hein,
pour peut-être voir les cartes, du coup.
Et pour le grand plaisir d'Aurore, on peut toujours
checker.
Impeccable. Et du coup, il y a toujours plusieurs joueurs en lice. Les mains sont ouvertes sur la table et sont comparées. Et le gagnant de la partie est le joueur qui détient la main la plus forte. La meilleure combinaison de 5 cartes parmi les 7 cartes, du coup, à votre disposition, les 2 cartes que vous avez en votre possession, face fermée. Et les 5 cartes qui sont ouvertes au milieu de la table et qui sont communes à tout le monde. Le coup est alors terminé et le bouton passe au joueur suivant, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et une nouvelle main de poker peut alors commencer.
Et on recommence.
Et ça repartit pour
jusqu'à ce qu'on ait plus de jetons.
Si vous découvrez le poker, il y a plein de tutos sur internet, comment jouer aussi, hein, sur YouTube. Vous pouvez les voir.
Il y a énormément de vidéos. On a de la chance. Enfin, c'est Benny et You qui nous disaient ça. On a eu la chance de discuter avec eux, qui nous disaient qu'il y a énormément de contenu en France, même si le français n'est pas la langue du poker, parce que c'est vraiment l'anglais. En France, on a énormément de contenu gratuit sur le poker. Il faut s'en servir quand on débute.
C'est ça, profitez-en, parce que moi j'ai eu l'occasion de commencer à un moment où on n'avait pas tous ces supports justement qui sont disponibles maintenant.
Et... Ah, t'es un vieux.
Et, je suis un vieux.
Un vieux du poker.
Un vieux du poker, et c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'on a à disposition, n'hésitez pas à aller consulter tout ce que vous pouvez trouver sur Internet.
Et pour apprendre encore à mieux jouer, on vous propose une nouvelle rubrique.
La main parfaite du Tilt Show.
Boule, quelle est notre main parfaite aujourd'hui ?
Eh bien, pour commencer, du coup, la main parfaite aujourd'hui, ce sera 9 et 10 à cœur qu'on jouera en position de cut-off. Pour expliquer déjà ce que c'est le cut-off, c'est le fait d'être du coup juste avant le bouton, quoi, en fait, à parler.
Ouais. Donc il y a le cut-off, il y a le dealer, la small blind, la big blind par rapport à ça.
Exactement.
Et l'UTG, le premier de parole. Pour faire simple.
Et donc nous sommes dans un coup où nous avons le premier joueur à parler, le joueur UTG, qui ouvre le coup et qui ouvre à 2,5 bébés.
Donc ça veut dire qu'il fait deux fois et demi ce que la big blind a mis.
Exactement.
Oui, on parle beaucoup de big blind.
On parle souvent en bébé. Il va falloir vous y habituer. Du coup, tout le monde fold jusqu'à ce que ça arrive à moi. Du coup, avec 9-10 à cœur, j'ai encore 50 bébés devant moi. J'ai un peu de profondeur. Je me dis, pourquoi pas coller cette petite mise et aller voir ce qui se passe au flop. Petit imprévu que j'avais pas prévu, c'est que la big blind allait nous coller aussi.
Ah bah oui.
Et oui, sinon c'est pas drôle.
C'est pas trop cher pour elle.
Du coup, la big blind ayant payé, nous avons un flop qui arrive avec le 7 de pique, le 8 de pique et l'as de cœur.
Il y a 3 dans le coup. Okay.
On est
2 piques. Tu peux redire 8 de pique ?
On a 2 piques, du coup, le 7 et le 8. Et on a l'as de cœur.
Ça va, t'es bien.
J'ai un tirage quinte par les deux bouts. Pour le moment, c'est pas extraordinaire, mais... on a du potentiel
7, 8,
derrière.
9, 10, bon, t'as encore l'as de cœur.
On a du potentiel derrière, ça va.
8,
on a,
5 cartes.
On a un pot qui a 8 bébés pour le moment. Donc, le joueur qui est de big blind, check.
Check, ça c'est ce que je fais moi, ça. Check.
Ça, c'est le truc à Aurore. Le joueur qui avait ouvert pré-flop envoie un continuation bet. Donc c'est une mise de continuation, hein. c'est ce qui se fait régulièrement dans le poker après le flop.
C'est-à-dire que c'est lui qui a ouvert, qui avait relancé la première fois,
ça,
et du coup c'est lui qui réouvre de nouveau sur ce tour-là.
Après le flop, ouais, tout à fait. Et du coup, il fait un continuation bet à 3 bébés.
Ça va.
Dans un pot à 8 bébés.
C'est correct.
Ça sent quand même le joueur qui a touché son petit as, je pense. Du coup, je colle parce que j'ai quand même mon tirage quinte par les deux bouts. J'ai quand même une main à un beau potentiel. Et le
backdoor
joueur...
cœur aussi, ouais.
Il y a un cœur, mais bon, il faut...
Backdoor.
Il faut aller les chercher. Pour le moment, ils ne sautent pas encore vraiment aux yeux. Ils sont présents, mais ils ne sautent pas encore vraiment aux yeux.
Mais tu payes.
Mais je paye. Et du coup, le joueur qui était ton bébé abandonne le coup. Il fold. Et on se retrouve à deux dans le coup. Pour une turn qui va être le 2 de cœur.
Oh, ah, c'est beau ça.
La brique à cœur qui m'ouvre aussi du coup tous les cœurs dans le coup. Du coup, le joueur.
Le fameux backdoor.
Le fameux backdoor. Le joueur du coup qui était UTG du coup et qui a l'initiative check.
Ok.
Je fais le choix de checker aussi. Pour le moment, j'ai qu'un tirage quinte, un tirage couleur. Je suis assez prudent. Je sais que tout le monde n'aurait peut-être pas fait ce choix-là, mais moi, je reste assez prudent. Et je choisis l'option du check pour avoir en river le valet de trèfle qui m'amène ma quinte, qui ne fait rentrer aucune couleur. Le joueur qui est UTG, il ouvre à 5 bébés dans un pot qui fait 14 bébés maintenant.
Toujours un tiers pot à peu près, du coup.
À peu près le tiers du pot, donc il est bien, je le sens bien en value sur son as, en fait, quoi, pour essayer vraiment de value son as. Du coup, je prends mon temps, je réfléchis à tout ça, je réfléchis avec quel type de main il peut être entré.
Le mec, il tank.
Avec la main max. Surtout ça, très important.
Le cinéma.
Le cinéma avec la main max. Et du coup, je fais le choix de relancer à 11 bébés. Du coup, je fais juste un petit 2,2, 2,1 sur son ouverture. Ce qui pousse le joueur à coller assez rapidement. Et là, du coup, j'ouvre ma main où je lui fais voir que j'ai une main max avec la quinte. Et le joueur, il me montre son jeu. Et il me fait voir qu'il a deux paires. Il a l'as de pique et le valet de cœur. Du coup...
Bah t'es devant.
Un coup plutôt bien rentabilisé. Mais après,
ouh là là, je suis pas
d'accord, sais que, exactement, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde. Et c'est ça qui est beau dans le poker, c'est qu'il y a toujours plusieurs façons de jouer un coup.
Donc, juste on récapitule, t'as collé l'ouverture qui a été faite pré-flop. Ensuite, vous avez...
Alors, j'ai collé l'ouverture qui a été faite pré-flop. Ensuite, il a fait son continuation bet.
Et t'as collé le continuation bet.
J'ai encore collé le continuation bet.
Vous avez checké après à la
check,
turn.
Check à la turn. Tout ça pour qu'il fasse une ouverture à la river et que je lui revienne dessus à 2,1 à peu près.
Après le board.
Pour l'amener au call.
Tu l'aurais joué comment, tête main, là?
Moi, je pense qu'à la turn, je le laisse pas, quand il check, je le laisse pas toucher gratuit. Parce que du coup, je sais que je joue la quinte par les deux bouts. Je sais que je joue la couleur. Donc, j'ai quand même beaucoup d'outs sur ma river qui peuvent me faire gagner. Et moi, je me dis, a priori, le mec, il a touché sans doute son as, comme tu dis, Boule. Mais pourquoi il irait voir une quinte gratuite, en fait? Parce que moi, ma main, elle peut s'améliorer, mais peut-être que je peux le faire folder maintenant, en fait, s'il n'est pas tout à fait sûr. Je me dis, peut-être avec son check, il est faible, en fait. Tu vois, je sais pas. Donc j'aurais eu tendance à lui mettre un barrel à ce moment-là. Ce qui n'est pas forcément en vrai le meilleur move, parce que si je touche pas, c'est quand même lui qui est premier de parole, donc il peut river me bet. Et,
tu joues encore 20% en turn.
Mais voilà, du coup je me dis, je pense que je ne l'aurais pas laissé tirer gratuit en fait.
Après, c'est un choix. Moi je pense que du coup avec son as, il y a peu de chances que, avec les ouvertures qu'il a faites, tu le fasses folder. Enfin, tout dépend le montant que tu auras envoyé, en fait.
Ouais. Mais après, je ne suis pas sûr qu'il est là, si tu vois.
Valet, du coup, je pense qu'il y a peu de chances qu'il fold sur ce type de board.
S'il a un roi 8, un truc comme ça, et qu'il a juste touché top pair 8, tu vois. Enfin, pas top pair, du coup,
c'est
deuxième pair au board.
Après, tout dépend sur quel type de main tu le vois. Moi, je le voyais bien sur un as, donc j'ai voulu attendre d'être sûr d'avoir quelque chose en main avant d'envoyer des jetons au milieu de la table. Mais je peux comprendre aussi qu'avec le nombre de tirages que j'avais, on puisse essayer d'aller chercher un peu de jetons et éventuellement faire folder un bluff sur ce coup-là.
Tom, tu aurais fait quoi ?
Moi, j'aurais profité de ma position pré-flop déjà. De blind 5, je pense que j'aurais fait 5 blind 5 justement pour pas que le bouton ni la small ni la big rentre avec nous, en fait. Et vu qu'il a as balai, il aurait forcément payé, je pense.
Donc vous auriez déjà été plus que deux, tu penses, déjà dès le...
Je pense, avec un pot beaucoup plus gros déjà. Et le 7-8 as, je pense que lui, du coup, il aurait checké et pas ouvert vu que c'était moi qui avais la main. J'aurais mis, on serait à 11 blind au lieu de 8 déjà. Donc je pense que j'aurais mis un tiers pot, je pense, 4 blindes 5, un truc comme ça. Il m'aurait suivi forcément avec son
as max.
Avec son as max, je pense qu'il m'aurait suivi, ou peut-être foldé en me voyant sur un gros as.
C'est aussi une possibilité, parce que là, peut-être, du coup, tu représentes énormément de force en jouant comme ça.
La turn 2 de cœur, il aurait continué à checker, je pense. Ou il aurait ouvert en ayant peur que j'ai le cœur, mais bon, je pense pas, tu vois.
Donc là, on serait déjà à 11, on serait déjà à 20, presque 20 blindes déjà pour un...
Déjà, tu fais une value de 6 blindes par rapport à moi sur ton coup là-dessus. Ça.
Après le turn, je pense que je continue avec 5 blindes, pas plus, parce que ma main n'est pas faite non plus. Mais en espérant peut-être qu'il couche avec un continuation bet, je pense qu'il ne l'aurait pas couché non plus. Le 2 de cœur rentre rien pour personne, en fait, normalement, dans ce jeu-là. Et le valet de trèfle, je pense que j'y prends tout à la fin.
Ouais, après, comme tu as représenté énormément de force avant, je sais pas si tu peux faire la même value au river, en fait. Parce que comme tu es impressionné
le avant... le pot, il est presque à 30 bébés, on a 50 bébés. Hein. River, il nous reste plus que 20 bébés chacun. S'il a mis 25 bébés...
Si tu as payé jusque-là, il a encore un fold, il peut encore...
Il peut encore folder, bien sûr, mais je pense que c'est très dur quand même.
Bah oui, parce que s'il te voit hyper fort, il va te voir avec un As-Roi en main.
As-Roi ou As-Dame, et je pense que son As-Valet, il reprend le lead.
Avec sa double paire.
Avec sa double paire.
Avec sa double paire, River,
il
donne de la confiance, du coup, encore plus.
C'est ça, et moi, j'y reviens dessus. Je pense qu'il y a moyen d'y prendre beaucoup plus dans cette main, ouais.
Par contre, si tu touches pas à la fin...
Bah, j'ai perdu beaucoup plus.
Ouais, c'est plus c'est un jeu plus
malheureusement
risqué.
Les joies du poker ou les malheurs du poker.
Ok. Donc un joueur prudent. Moi, j'aime bien checker, mais quand je suis première de parole, pour voir ce que les autres y vont faire, tu vois. J'aime pas quand ça arrive à moi et que tout le monde a checké, genre, what? Non, c'est bon, on va payer, les gars.
Alors toi, c'est tu check, c'est ça, hein. Dis-moi si je me trompe, hein. Mais tu check, du coup, quand t'es en première de parole.
Pour voir.
Pour voir. Par contre, si tout le monde a checké avant toi, faut payer. Là, t'envoies.
Les auditeurs, dites rien, mais ça va nous aider pour la suite. Non, moi, je préfère jouer la position là-dessus. Parce que, en fait, au cut-off, il ne reste plus que 3 joueurs à parler derrière nous, dont 2 qui ont mis une mise déjà, mais sans voir leur jeu. Donc, sûrement faible. Donc, il ne me reste plus qu'à 2 joueurs et je préfère jouer un coup à 2 joueurs qu'à 3 joueurs, en fait.
Ça se
qui me limite les. Ce qui me limite.
Après, ça reste dangereux parce que je pense
c'est ça.
Que
mais c'est, j'ai la position.
Ça reste une ouverture avec une main qui reste bad range dans cette position-là.
C'est ça, mais après, je me dis que j'ai la position et c'est facile à folder flop s'il y a 2, 6, as.
Rien, flop.
Ça me dérange pas de folder très vite, en fait, parce que j'aurai la position et voilà.
Ok. Intéressant.
Et voilà comment on peut jouer au poker. Il y a 20 000, il y a 1 million de joueurs, 1 million de fois, on peut jouer une main différente.
Ah, c'est une main parfaite parce qu'en plus on la gagne à la fin. Mais...
Ouais, ça c'est bien.
Et nous avons une dernière rubrique pour notre émission. Je vous laisse découvrir ça. L'écho des tables, c'est une rubrique qu'on a eu envie de mettre pour pouvoir parler soit de sujets d'actualité, soit de sujets qui reviennent beaucoup quand on est en club ou avec les autres joueurs. Il y a toujours des sujets qui reviennent. Et là, on en a un pour vous.
Du coup, le premier sujet, ça sera « Êtes-vous plus pour le poker en ligne ou pour le poker en live ?» Tom, toi, je crois savoir que tu es plus poker en live.
Oui, moi, je suis bien poker un jour avec des vrais gens. Parce
pourquoi
que j'ai
pourquoi
plus l'aptitude à gérer leurs émotions, leurs petits rituels. Et ça m'aide beaucoup, en fait. Tandis que sur Internet, en fait, on joue nos cartes. Et on ne joue pas les gens qui sont en face de nous, en fait. Et moi, j'aime bien sentir pas le contact, parce qu'on ne se touche pas, mais voir les gens ou... Leurs petits rituels.
Leurs tels,
merci.
Essayer de les analyser, c'est de ça. Rentrer dans leur tête et de comprendre leur système de fonctionnement.
Avec des paroles, on peut se parler hors coup au poker et des fois apprendre beaucoup pour la suite. Ce qui m'est déjà arrivé en tournoi, en parlant avec un monsieur, il me dit « Mais River, si j'aurais pas été max, j'aurais misé. » Ok, bah 10 minutes. 10 minutes plus tard, on a joué un coup ensemble et River, il a misé et je savais qu'il était en bluff, en fait.
Voilà, faites très attention aux informations que vous pouvez donner à une table, quoi. Chaque mot, chaque geste est observé par un joueur de poker.
Alors du coup, pas du tout par moi, parce que je suis complètement nulle pour faire ce genre de truc. Je pourrais regarder les gens en même temps que Thomas les regarderait, et je ne verrais rien, alors que lui, il arriverait à voir le petit truc. Ça, c'est assez, c'est vraiment une aptitude qui m'est étrangère. Et puis même si les gens me parlent, je vais jamais savoir s'ils disent ça pour rigoler, pas pour rigoler, et je vais pas faire attention la fois d'après où ça va m'arriver, ou même si je faisais attention, j'aurais toujours le doute, j'aurais pas assez confiance dans cette aptitude-là à décerner s'ils ont dit des conneries ou s'ils ont lâché un truc sans vouloir, enfin voilà. Du coup, bah moi je préfère carrément le poker online parce que je peux jouer mes cartes, je peux jouer ma position, et en fait on a quand même une analyse sur les autres joueurs. On voit si... La seule analyse qu'on peut avoir, c'est si on a vu leur carte à la fin d'un coup et qu'on se dit « Ah bah finalement, il a joué comme ça, mais il a bluffé. » Ou s'il met du temps à... avant de call, fold ou faire un move.
Oui, mais le problème sur Internet, c'est que le monsieur, il peut être aux toilettes et du coup, sa main... Non, mais voilà, il peut avoir plus de temps, en fait.
Chose
qui m'est arrivée déjà, je suis aux toilettes, c'est à moi de jouer.
Super, on veut pas tout ça.
Je comprends Aurore, parce que le timing tell, ça existe en effet sur Internet et il y a des gens qui peuvent folder des mains très très rapidement sans s'en rendre compte régulièrement, ou des gens qui peuvent, quand ils sont max, laisser le temps, le chrono se dérouler à fond, et les timing tels existent sur Internet.
Donc voilà, moi je préfère vraiment le online parce que l'analyse, je la trouve beaucoup plus factuelle, et puis je joue un jeu beaucoup plus factuel en fait. Ma position, mes cartes, basta, les autres... Je m'en fiche un peu.
Et toi, Boule, du coup, des tables.
Ben moi, j'ai pas vraiment de préférence. Je trouve que c'est deux jeux totalement différents. Le poker en live, ça nous offre la possibilité, comme tu disais, de jouer un poker plus complet parce que ça, t'as la possibilité d'analyser les gens, leur style de jeu, leurs expressions corporelles, leur façon de penser, et t'essayes de rentrer dans leur tête.
Tu veux faire ça, toi ?
Moi, j'aime bien entrer dans la tête des gens. C'est un pur bonheur.
Rentre pas dans ma tête.
Oh, pourtant, quand on joue ensemble, Aurore, si tu savais.
Je fais attention.
Un livre ouvert.
Pour une notrice, c'est pas mal.
Et du coup, par contre, le problème avec le live, c'est quand même que ça peut vite devenir coûteux. Il y a des frais de déplacement, il y a les frais de restauration, parfois les frais d'hôtel quand on fait des tournois sur plusieurs jours ou qu'on se déplace loin pour aller jouer des tournois. Donc c'est quand même un petit budget supplémentaire à prévoir. Faut y penser. Et après, bah, y a le poker online. C'est facile, c'est un moyen facile de trouver une partie rapidement, à n'importe quel moment, sans bouger de son canapé, en fait, tranquillement restant chez soi. Le jeu, c'est totalement différent parce que, en fait, on possède beaucoup moins d'informations que sur le live. C'est un peu plus basé sur, du coup, les mathématiques et la probabilité. L'inconvénient, c'est que, on a le fait de pouvoir jouer à volonté sans faire d'efforts et, du coup, ça peut tendre vers l'addiction pour certaines
personnes. C'est pour toutes les mises et ses choix, son canapé, où on veut, on peut le faire, et voilà. Merci, Boule.
C'est facile, mais il faut faire attention, du coup, le poker online. C'est
ça. Et surtout... Mettez pas vos comptes à l'envers.
Et du coup, on a toujours, je rappelle du coup que c'est toujours interdit aux moins de 18 ans et que si vous souhaitez contacter Joueur Info Service, vous pouvez aussi le faire par téléphone, toujours de 8h à 12h et 7 jours sur 7.
À 2h, monsieur Boule. À 12h, il n'y a pas
de problème. Excusez-moi, j'ai mal articulé. À 2h du matin. 09, et vous pouvez les contacter au 09 74 75 13 13. Vous recevrez une écoute sans jugement et confidentielle et des informations précises et une aide personnalisée.
C'est très important.
N'oubliez pas, si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou si vous voyez quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à les contacter surtout.
Savoir quoi faire pour soi et pour les autres. Ben merci beaucoup, je crois qu'on a fait une belle première émission. Je suis fière de nous. Voilà, je dis aux auditeurs, j'espère qu'ils sont fiers de nous aussi. J'espère que ça vous aura intéressé. Tout ce qu'on vous a dit, la prochaine fois on passera sur un autre événement, on aura même un invité avec nous dans le studio, donc voilà, n'hésitez pas à nous écouter sur Radio Graphite bien sûr, et aussi en podcast. Et bien merci beaucoup Boule, merci Tom,
merci, bonne soirée à tout le monde,
bonne soirée à tous.